Les sept péchés capitaux d'Eugène Sue. L'avarice. Les millionnaires. Tome 1er, chapitre 1er. L'emplacement appelé depuis de longues années le charnier des innocents, situé près des piliers des Halles, a toujours été cité pour le grand nombre d'écrivains publics qui ont établi leurs échoppes dans ce quartier populeux de Paris. Par une belle matinée du mois de mai 1800 et quelques, une jeune fille de 18 ans environ, vêtue comme une pauvre ouvrière, et dont la figure charmante et mélancolique était d'une pâleur mate, sinistre reflet de la misère, parcourait le charnier des innocents d'un air pensif. Plusieurs fois, elle s'arrêta, indécise, devant quelques échoppes d'écrivains publics, mais soit que les uns lui parussent trop jeunes, les autres d'une physionomie peu engageante, soit enfin qu'ils fussent alors tous occupés, elle continuait lentement ses recherches. Amisant cependant à la porte de la dernière échoppe, un vieillard d'une physionomie vénérable, rempli de douceur et de bonté, la jeune fille n'hésita pas à entrer dans la maisonnette de bois. L'écrivain public, frappé de son côté de la touchante beauté de la jeune fille, de sa tournure modeste, de son air timide et triste, l'accueillit avec une affabilité paternelle, la fit entrer dans l'échoppe, dont il ferma la porte. Puis, tirant discrètement le rideau de la petite fenêtre, le bonhomme, presque vêtu de haillons, indiqua d'un geste une chaise à sa cliente et s'assit dans son vieux fauteuil de cuir. Mariette, c'était le nom de la blonde jeune fille, baissa ses grands yeux bleus, rougit beaucoup et garda pendant quelques instants un silence embarrassé, presque pénible. Une vive émotion agitait son sein sous le vieux petit châle de mérinos gris qu'elle portait sur sa robe d'indienne fanée, tandis que ses deux mains, croisées sur ses genoux, tremblaient légèrement. L'écrivain, désirant rassurer la pauvre fille, lui dit affectueusement « Allons, mon enfant, remettez-vous. Pourquoi cet embarras? Vous venez sans doute me prier de rédiger une pétition, une demande, une lettre ?»«
Oui, monsieur, c'est pour une lettre que je viens. »
« Vous ne savez donc pas écrire ?»«
Non, monsieur, »
répondit Mariette en rougissant davantage encore, car à sa timidité naturelle se joignait la honte de son ignorance. L'écrivain public, regrettant d'avoir peut-être humilié sa cliente, reprit d'un ton affectueux « Pauvre enfant, me supposez-vous capable de blâmer votre ignorance ?»«
Monsieur,
ah, croyez-moi, » reprit-il d'une voix pénétrée, « c'est au contraire de l'attendrissement. » De la compassion que j'éprouve pour les personnes qui, comme vous, n'ayant pu acquérir une éducation première, sont forcées de venir à moi. Pauvres créatures, obligées de s'adresser à un tiers qu'elles peuvent croire indiscret, moqueur, et cependant, il faut qu'elles le mettent dans la confidence de leurs pensées les plus secrètes, les plus chères. C'est bien pénible, n'est-ce pas ?
Oh oui, monsieur, dit Mariette, touchée de ces paroles.
Être obligée de s'adresser à un étranger pour... La jeune fille n'acheva pas, rougit encore, et ses yeux devinrent humides. L'écrivain public reprit en regardant la jeune fille avec un intérêt croissant. « Encore une fois, rassurez-vous, mon enfant. Avec moi, vous n'avez à craindre ni indiscrétion ni moquerie. J'ai toujours regardé comme quelque chose de touchant, de sacré, la confiance que sont obligées de m'accorder les personnes que le hasard ou le malheur a déshéritées des bienfaits de l'éducation. » Puis, souriant avec bonhomie, l'écrivain public ajouta « Ah ça, mademoiselle, n'allez pas croire au moins que je vous parle ainsi pour me vanter aux dépens de mes confrères et leur enlever une cliente. Non, non, » reprit-il plus sérieusement. « Je vous parle comme je pense et, à mon âge, on peut avouer cette prétention-là. » Mariette, de plus en plus surprise et émue du langage du vieillard, lui dit avec reconnaissance « Ah merci, monsieur. Vous me soulagez de la moitié de ma peine, en comprenant, en excusant mon embarras. »
« Oh oui, »
ajouta-t-elle en soupirant, « c'est bien cruel de ne savoir ni lire ni écrire. Mais hélas, cela souvent ne dépend pas de nous. Eh, mon Dieu, ma pauvre enfant, il en aura été de vous, j'en suis sûr, comme de tant d'autres jeunes filles qui s'adressent à moi. Ce n'est pas la bonne volonté qui leur a manqué pour apprendre, c'est de le pouvoir. Celles-ci, en l'absence de leurs parents occupés hors du logis et obligées dès leur enfance de garder leur sœur ou leur frère plus petit, n'ont jamais eu le temps d'aller à l'école. Celle-là, mise en apprentissage de trop bonne heure.
« Comme moi, monsieur, » dit Mariette en soupirant.
« On vous a mise, tout enfant, en apprentissage. À 9 ans, monsieur,
et jusqu'alors j'étais resté à la maison pour garder un petit frère qui est mort peu de temps avant mon père et ma mère. Pauvre enfant. Votre histoire est à peu près celle de beaucoup de vos compagnes qui sont dans la même position que vous. Mais comment, en sortant d'apprentissage, n'avez-vous pas tâché de vous instruire ? Et le temps, monsieur ? Dit tristement Mariette. C'est à peine si, en prenant sur mes nuits, mon travail peut suffire à moi et à ma marraine. Hélas, oui, le temps, dit le vieillard. Le temps, c'est le pain pour les travailleurs, et trop souvent, il faut opter, mourir de faim ou vivre dans l'ignorance. Puis il ajouta, de plus en plus intéressé, « Vous me parlez de votre marraine. Vous n'avez donc plus ni père ni mère ?»« Non, monsieur, je vous l'ai dit, » répondit tristement Mariette. Puis elle reprit, en soupirant, « Mais pardon, monsieur, de vous avoir fait perdre ainsi beaucoup de votre temps au lieu de vous avoir dit tout de suite quelle lettre je viens vous demander. » Ce temps, je ne pouvais mieux l'employer que vous écouter, mon enfant, car je suis vieux, j'ai de l'expérience, et je suis certain que vous êtes une brave et digne jeune fille. Maintenant, venons-en à cette lettre. Voulez-vous m'en dire le sujet pour que je la rédige, ou bien préférez-vous me la dicter ? Je préfère vous la dicter, monsieur. Alors je suis prêt, mon enfant, dit le bonhomme, en mettant ses lunettes et s'établissant devant son bureau, la tête baissée sur son papier, afin de ne pas augmenter l'embarras de sa cliente en la regardant. Après un moment d'hésitation, Mariette commença de dicter ce qui suit à voix basse et en tenant ses yeux baissés. « Monsieur Louis ?» Au nom de Louis, le vieillard fit un léger mouvement de surprise inaperçu de Mariette qui répéta de nouveau d'une voix un peu émue. « Monsieur Louis ?»« C'est écrit, mon enfant, » dit le vieillard, toujours sans regarder Mariette. Celle-ci continua, en s'interrompant parfois et en hésitant, car il était facile de deviner que, malgré sa confiance dans le vieillard, elle ne lui livrait pas toute sa pensée. « Je suis bien triste. Je n'ai pas encore reçu de vos nouvelles. Vous m'aviez pourtant promis de m'écrire pendant votre voyage, monsieur Louis. »« Pendant votre voyage, » répéta le vieillard, dont les traits étaient soudain devenus pensifs et qui se dit en lui-même avec une vague anxiété. « Voilà un rapprochement étrange. Il se nomme Louis et il est absent. » Mariette continua de dicter. « J'espère, monsieur Louis, que vous vous portez bien. » Et que ce n'est pas pour cause de maladie que vous ne m'avez pas encore écrit, car ce serait pour moi deux chagrins au lieu d'un. C'est aujourd'hui le 6 mai, monsieur Louis, le 6 mai. Aussi je n'ai pas voulu passer cette journée sans vous faire souvenir de moi. Peut-être que vous aurez eu la même idée et qu'après-demain je recevrai une lettre de vous, comme vous recevrez celle-ci de moi. Alors ce ne serait ni par oubli ni par maladie que vous auriez tant tardé à m'écrire. Comme j'en serais heureuse. Aussi, je vais attendre jusqu'après-demain, avec une grande impatience. Dieu veuille qu'elle ne soit pas trompée, monsieur Louis. Mariette, en dictant ces derniers mots, étouffa un soupir. Une larme roula sur ses joues. Elle s'interrompit durant quelques instants. Les traits de l'écrivain public, toujours courbés sur sa table, était invisible à la jeune fille et prenait une expression de plus en plus attentive et sérieusement inquiète. Deux ou trois fois, tout en écrivant, il tâcha de jeter la dérobée sur sa cliente un regard chagrin et scrutateur. Il était facile de deviner qu'au touchant intérêt qu'il avait d'abord volontairement ressenti pour Mariette, succédait chez le vieillard une sorte d'éloignement causé par de graves appréhensions. La jeune ouvrière poursuivit sa dictée et, continuant de tenir ses yeux baissés, « Je n'ai rien de nouveau à vous apprendre, monsieur Louis. Ma marraine est toujours bien malade. Ses souffrances empirent, cela aigrit encore son caractère. Afin de la quitter le moins possible, je travaille maintenant chez nous au lieu d'aller chez madame Jourdan. Aussi les journées me paraissent longues et tristes, car le travail fait en commun à l'atelier avec mes compagnes était presque un plaisir et allait bien plus vite. Aussi je suis obligé de veiller très tard et je ne dors pas beaucoup. » Car c'est surtout la nuit que ma marraine souffre davantage et qu'elle a le plus besoin de moi. Quelquefois je ne m'éveille pas aussitôt qu'elle m'appelle, parce que souvent le sommeil est plus fort que moi. Alors elle me gronde un peu, c'est bien naturel, car elle souffre. C'est pour vous dire, monsieur Louis, que comme toujours je ne suis pas très heureuse à la maison, et qu'un mot d'amitié de votre part me ferait grand bien. Cela me consolerait de tant de choses tristes. Adieu, monsieur Louis. Je comptais sur Augustine pour vous écrire, mais elle est allée dans son pays, et j'étais obligé de m'adresser à une autre personne à qui j'ai dicté cette lettre. Ah, monsieur Louis, jamais je n'étais plus chagrine de ne savoir ni lire ni écrire qu'en ce moment. Adieu encore, monsieur Louis. Pensez à moi, je vous en prie, car moi je pense toujours à vous. Je vous salue de bien bonne amitié. » La jeune fille étant restée silencieuse après ces derniers mots, le vieillard se retourna et, levant enfin les yeux sur elle, lui dit « Est-ce tout, mon enfant ?»«
Oui, monsieur. » »«
Et de quel nom faut-il signer cette lettre ?»«
Mariette. » »«
Seulement Mariette ?»«
Mariette Moreau, si vous voulez, monsieur. C'est mon nom de famille. » »«
Signé Mariette Moreau, » dit le vieillard en écrivant ses noms. Puis, ayant plié la lettre, il reprit en dissimulant la secrète angoisse avec laquelle il attendait la réponse de la jeune fille. « Et cette lettre, à qui faut-il l'adresser, mon enfant ?»«
À monsieur Louis Richard, à Dreux, bureau restant. » »«
Plus de doute, » se dit le vieillard, en se disposant à écrire sur la lettre l'adresse que Mariette venait de lui dicter. Si la jeune fille n'eût pas été elle-même très préoccupée, elle aurait sans doute remarqué l'expression contrainte qui se peignait depuis quelques instants sur la physionomie de l'écrivain et qui s'accentua plus durement encore lorsqu'il fut bien certain du nom de celui à qui cette missive ingénue était destinée. Jetant à la dérobée un regard irrité sur Mariette, il semblait ne pouvoir se résoudre à écrire l'adresse qu'elle venait de lui dicter, car après avoir seulement mis sur l'enveloppe ces mots « À monsieur, monsieur », il laissa tomber sa plume et il dit à l'ouvrière, en tâchant de sourire avec sa bonhomie accoutumée, afin de dissimuler ses ressentiments et ses appréhensions, « Tenez, mon enfant, quoique ce soit la première fois que nous nous voyons, il me semble que vous avez déjà quelque confiance en moi. »
« C'est vrai, monsieur.
Avant de venir ici, je craignais de n'avoir pas le courage de dicter ma lettre à quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais vous m'avez accueilli d'une manière si bonne que je n'ai presque plus été embarrassé. »
« Embarrassé, pourquoi, mon enfant ? Ce serait votre père que je ne trouverais pas un mot à redire à la lettre que vous écrivez à monsieur Louis. »
Et même si je ne craignais d'abuser de cette confiance que vous dites avoir en moi, je vous demanderais...
Mais non, ce serait trop indiscret.
Que me demanderiez-vous, monsieur ?
Quel est ce monsieur Louis Richard ?
Mon Dieu, monsieur, ce n'est pas un secret. Monsieur Louis est clerc de notaire. L'étude où il est employé se trouve dans la même maison que l'atelier où j'allais travailler. C'est ainsi que nous nous sommes connus il y a aujourd'hui un an, le 6 mai.
« Je comprends maintenant pourquoi vous insistiez sur la date de votre lettre. C'est l'anniversaire de votre connaissance. »«
Oui, monsieur. »«
Et vous vous aimez ?»«
Allons, ne rougissez pas, mon enfant. »«
Vous attendez sans doute le moment de vous marier ?»«
Oui, monsieur. »«
Et la famille de monsieur Louis consent à ce mariage ?»«
Monsieur Louis n'a plus que son père, monsieur, et nous espérons qu'il ne nous refusera pas son consentement. »«
Et le père de monsieur Louis, quel homme est-ce ? »
Le meilleur des pères, à ce que m'a dit monsieur Louis, et supportant sa pauvreté avec grand courage, quoiqu'il était à son aise autrefois. Mais à cette heure, monsieur Louis et son père sont aussi pauvres que nous deux, ma marraine. C'est cela qui nous donne bon espoir pour notre mariage. Entre pauvres gens, il ne peut y avoir de difficultés.
Et votre marraine, mon enfant, il me semble qu'elle ne vous rend pas la vie très heureuse.
Que voulez-vous, monsieur ? Il est si naturel d'être de mauvaise humeur quand on n'est presque pas un moment sans souffrir et qu'on n'a jamais eu que du malheur dans sa vie.
Votre marraine est donc infirme ?
Elle a perdu la main, monsieur, et elle a une maladie de poitrine qui la tient au lit depuis plus d'un an.
Perdu la main ? Comment ?
Elle était cardeuse de matelas, monsieur. Elle s'est piquée en travaillant avec son aiguille à crochet. La piqûre s'est envenimée, faute de soins, car ma marraine n'avait pas le temps de se faire soigner. Et on a été obligé de lui couper le bras. De temps à autre, la plaie se rouvre encore, et lui est bien sensible.
« Pauvre femme, » dit le vieillard d'un air distrait.
« Quant à la maladie de poitrine de ma marraine, » reprit Mariette, « bien des cardeuses en sont atteintes comme elle, à ce que dit le médecin, parce qu'elle respire sans cesse la poussière malsaine qui sort de la laine des matelas qu'elle batte. Ma marraine est comme courbée en deux et... presque toutes les nuits, elle a des accès de toux si déchirants qu'il faut que je la soutienne quelquefois dans mes bras pendant plusieurs heures.
Ainsi, votre seul travail fait vivre votre marraine.
C'est tout simple, monsieur, elle ne peut plus gagner sa vie.
Ce dévouement de votre part est généreux. Je fais ce que je dois, monsieur. Ma marraine m'a recueilli chez elle après la mort de mes parents. Elle a payé pour moi 3 années d'apprentissage. Sans elle, je ne saurais pas l'état qui me fait vivre. N'est-il pas juste qu'elle profite maintenant de l'aide qu'elle m'a donnée autrefois ? Et pour subvenir à ses besoins et aux vôtres, vous travaillez beaucoup, sans doute ? Le plus que je peux, monsieur, 15 à 18 heures par jour. Et la nuit, au lieu de prendre un repos nécessaire, vous veillez votre marraine ? Qui la veillerait si ce n'est moi, monsieur ? Mais pourquoi n'a-t-elle pas tâché d'entrer à l'hôpital ? Le médecin a dit qu'on ne la garderait pas à l'hospice parce que sa maladie de poitrine était incurable. Et puis d'ailleurs, je ne sais si j'aurai le courage de l'abandonner ainsi. Allons, mon enfant, je ne m'étais pas trompé. Vous êtes une brave et digne jeune fille, dit le vieillard en tendant sa main à Mariette. Dans ce mouvement, soit par maladresse, soit volontairement, l'écrivain public fit échoir sur son bureau son encrier, de sorte que l'encre se renversa en partie sur la lettre à laquelle il ne manquait plus que l'adresse. « Oh mon Dieu, quel malheur !» s'écria Mariette. « Voici la lettre toute pleine d'encre, monsieur. »« Maladroit que je suis !» reprit le vieillard d'un air fâché. « Mais il n'y a que demi-mal. La lettre n'est pas longue. J'écris vite. Je ne vous demande que 10 minutes pour la recopier, mon enfant. Et en même temps, je la relirai tout haut, et vous verrez de la sorte si vous trouvez quelque chose à changer ou à ajouter. » « Mon Dieu, monsieur, excusez la peine que je vous donne. »« Tant pis pour moi, mon enfant, c'est ma faute, » dit le vieillard. Et il commença de relire la lettre à haute voix, tout en écrivant, et comme s'il le recopiait à mesure qu'il avançait dans cette lecture. En se livrant à ce nouveau travail, une violente lutte intérieure semblait se réfléchir sur les traits de l'écrivain public. Tantôt, au contraire, il paraissait confus et évitait d'arrêter ses yeux sur la candide figure de Mariette. Celle-ci, accoudée sur la table, appuyant son front dans sa main, suivait d'un regard mélancolique et envieux la plume rapide du vieillard et les caractères qu'il traçait, caractères indéchiffrables pour elle et qui cependant, se disait-elle, allaient rapporter sa pensée à celui qu'elle aimait. La jeune ouvrière, n'ayant rien trouvé à retrancher ou ajouter à sa missive ingénue, l'écrivain public la lui remit après l'avoir soigneusement cachetée. « Monsieur, demanda timidement la jeune fille en tirant de sa poche une petite bourse contenant 2 pièces de 10 sous et quelques sous. « Combien vous dois-je » « 50 centimes, répondit le vieillard après avoir hésité un instant, pensant que c'était peut-être au prix de son pain de la journée que la pauvre fille donnait de ses nouvelles à son amant. « 50 centimes, reprit donc l'écrivain. « Et il est bien entendu, mon enfant, que je ne vous fais payer qu'une des 2 lettres que j'ai écrites. Je suis seul responsable de ma maladresse. » « Vous êtes bien honnête, monsieur, » dit Mariette, touchée de ce qu'elle regardait comme une preuve de la générosité de l'écrivain. Puis, après avoir payé sa lettre, elle ajouta « Vous avez été si bon pour moi, monsieur, que j'ose vous demander un service. Parlez, mon enfant. Si j'avais d'autres lettres à faire écrire, il me serait presque impossible de m'adresser maintenant à d'autres qu'à vous. Je serai à votre service. Ce n'est pas tout, monsieur. Ma marraine est comme moi, elle ne sait ni lire ni écrire. J'avais une amie en qui je me confiais, mais elle est absente. Pourriez-vous, dans le cas où je recevrai une lettre de M. Louis, prendre la peine de me la lire ? Je vous dicterai tout de suite ma réponse. Certainement, mon enfant, je lirai vos lettres. Apportez-les-moi toutes, répondit le vieillard en dissimulant sa satisfaction. C'est moi qui vous remercie de la confiance que vous me témoignez. À bientôt, donc. Allons, vous sortez d'ici, je l'espère. Moins embarrassé qu'en y entrant. C'est qu'aussi, monsieur, je ne m'attendais pas à trouver en vous tant de bonté. Adieu donc, mon enfant. Habituez-vous à me regarder comme votre lecteur et votre secrétaire. Ne dirait-on pas maintenant que nous nous connaissons depuis 10 ans ? C'est bien vrai, monsieur. Au revoir. Au revoir, mon enfant. Mariette venait à peine de sortir de l'échoppe de l'écrivain public qu'un facteur pousse à la porte et dit cordialement au vieillard, en lui remettant une lettre. « Tenez, père Richard, voici pour vous une lettre de Dreux. Je n'aurai pas ainsi la peine de la porter jusque chez vous, rue de Grenelle, et vous l'aurez plus tôt. »« Une lettre de Dreux, » dit vivement le vieillard en la prenant. « Merci, mon garçon. » Puis, examinant l'écriture, il se dit « C'est de Ramon. Que va-t-il m'apprendre ? Que pense-t-il de mon fils ? Ah, que vont devenir maintenant des projets depuis si longtemps formés entre moi et Ramon ? Père Richard, c'est 6 sous, dit le facteur en tirant le vieillard de sa rêverie.
6 sous, s'écria l'écrivain public.
Diable, elle n'est donc pas affranchie.
Voyez le timbre, Père Richard.
C'est vrai, dit le vieillard en soupirant et tirant comme à regret de sa poche la pièce de 10 sous qu'il venait de recevoir. Il la remit au facteur. Durant cet incident, Mariette s'était hâtée de retourner chez elle.